Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
Stéphane Bonnat est l'un des rares maîtres chocolatiers en France. De la fermentation des fèves à l'emballage, le chocolat est entièrement fabriqué dans son atelier à Saint-Étienne-de-Crossey en Isère. Dans cet entretien, il nous raconte l'histoire de la maison Bonnat, nous dévoile les secrets de fabrication d'un chocolat d'exception et nous partage ses conseils de dégustation. Un reportage de Alice Dominé.
Je m'appelle Stéphane Bonnat, je suis chocolatier à Voiron et j'aime bien ça. Je suis bien l'arrière-petit-fils de Félix Bonnat, mais Félix a transformé l'entreprise qui était spécialisée en confiserie et licoristerie en chocolaterie. Mais notre activité dans le chocolat est bien plus ancienne que ça. Nous pensons que ça remonte à peu près aux années 1700 et des brouettes, du côté de l'Espagne. On a à l'heure actuelle des découvertes très intéressantes via une chercheuse du CNRS qui, à l'occasion de l'écriture d'un livre, s'est mise à dégoter des informations sur la famille que nous ignorions. Ça conforte un petit peu ça. On a un document en fait écrit par le duc de Richelieu qui, en 1728, cherche à savoir où nous sommes installés en Espagne, car il a mangé des chocolats qui lui ont plu de manière extraordinaire, à tel point qu'il cherche à en acheter 50 livres. C'est énorme pour l'époque. Et il demande à une connaissance, qui connaît une connaissance, qui connaît un Espagnol, qui sait où on est. Et ce courrier, il est dans mon bureau. Donc oui, ça remonte à un peu plus longtemps. Ceci étant, à l'époque, le chocolat n'avait rien à voir avec ce qu'on consomme à l'heure actuelle. C'était pas très bon. En fait, c'était une copie de ce qui était produit, par exemple, au Mexique, et plutôt destiné à la cuisine. Le cacao étant un produit très acide et très astringent, pour masquer ses défauts, on avait l'habitude de rajouter des épices, beaucoup de sucre, des fruits, enfin tout un tas de produits un petit peu masquants. Et finalement, un chocolat ne devait comporter, d'après les recettes que nous avons, qu'à peu près 10 à 12% de cacao. On est loin des 75, voire plus, que nous avons à l'heure actuelle, et qu'on considère un peu comme normaux.
Je reviens sur, donc vous disiez que la maison était en Espagne avant. Qu'est-ce qui a fait que, ensuite, vous vous soyez installé à Voiron et dans la région ?
Alors, en fait, nous étions en Espagne tout en étant français. Il y avait, je pense, une grosse activité commerciale d'importation de produits à travers toute l'Europe et une transformation qui devait être, en tout cas, qui ne devait pas être l'activité principale. L'un de mes arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-pères était capitaine de vaisseau mandaté par la couronne espagnole pour aller protéger le Venezuela des attaques des corsaires et pirates diverses et des tentatives de mainmise sur les plantations de cacao. Et je pense que c'est la manière par laquelle nous avons récupéré cette habitude de transformer le cacao et le chocolat tout en faisant la guerre aux pirates. D'accord. C'est l'aventure Playmobil à tous les étages. L'installation à Voiron vient avant, avec l'acquisition de ce qui a été pendant longtemps notre hangar à cacao. À l'époque, il ne faut pas oublier que le centre-ville, c'était l'église Saint-Pierre, ce n'était pas l'église Saint-Bruno. Et les documents que nous ont remis, les plans anciens qui nous avaient été remis par, si ma mémoire est bonne, la ville de Voiron ou le pays voironnais, montraient que la chocolaterie était à l'extrême périphérie de la ville de Voiron. Lorsque la famille revient d'Espagne en s'arrêtant par le Pays basque, nous achetons ce qui était un hôtel et un relais des postes, donc l'hôtel Berne et un relais des postes, où la première boutique est ouverte en 1830, je pense, et l'activité de confiserie commence aux alentours de 1840 ou 1850. Les premières étiquettes Bona datent de 1850. Chose très intéressante, Félix Bona se destinait en fait à une carrière de liquoriste-confiseur. Et il part avec un de ses amis, François Labbé, faire son tour de France et d'Europe afin d'apprendre le métier. Comme ça se faisait, c'était un petit peu une forme de compagnonnage. Lorsque les deux compères reviennent, ils découvrent que Avoiron, qui était déjà une ville de liquoristes et de confiseurs, grâce aux Chartreux entre autres, de nouvelles liquoristeries se sont construites. Comme ils sont très amis et ne veulent pas remettre cette belle amitié en question, ils vont tirer à pile ou face pour savoir qui sera liquoriste et qui aura un autre métier. Et il perd. Il décide donc de créer une société qui sera autour de la confiserie. Il se lance un petit peu dans la pâtisserie également, tout en gardant une fabrication de sirop. Pendant que François Labbé crée la distillerie de l'abbé François, entre autres, qui fera le China China Brun Perrot, dont on voit encore les publicités peintes sur les murs à travers toute la région. En 1879, un certain Monsieur Lindt, qui transformait du cacao en chocolat, qui n'était pas très très bon, part à la chasse en oubliant d'arrêter une machine. Quand il revient 3 jours plus tard, il entend tourner son truc, il se dit « mince, mon produit est fichu ». Il goûte son chocolat et là, il découvre que c'est anormalement bon. Là où l'humanité a eu de la chance, c'est que ce gars était sans doute brillant. Il découvre ce qu'il se passe, il invente une machine qu'il va appeler une conche longitudinale ou une conche de Lindt. Et lors de l'exposition internationale de Paris de 1880, Monsieur Lindt et un chocolatier français qui s'appelle Pupier vont offrir plusieurs millions de petits palets de chocolat noir à tous les visiteurs afin de leur prouver que désormais le chocolat c'est bon à manger. Félix Bona, qui va visiter l'exposition, goûte ce produit, il en tombe amoureux. Il trouve où sont fabriquées les machines et en 1881, il va commander un casque à cacao tarare, un broyeur supplémentaire, une petite plieuse, tout le matériel en somme pour se lancer dans le chocolat. Et en 1884, il change la destination sociale de l'entreprise Bona pour devenir Bona Chocolatier. Voilà la raison pour laquelle nous expliquons que la chocolaterie, telle qu'elle est à l'heure actuelle, a été créée en 1884. Mais notre aventure dans le chocolat est bien plus ancienne que ça.
Et donc vous parliez là de quelques petites machines pour fabriquer du chocolat. C'est quoi les étapes principales pour fabriquer du chocolat, en tout cas du chocolat Bona ?
Il faut sélectionner des types de cacao dont les parfums nous plaisent. Parce que ça commence, le plaisir commence ici. Ensuite, s'assurer que la fermentation du cacao va permettre de conserver les arômes que l'on souhaite mettre en avant dans le chocolat. Le cacao, après sa fermentation, est séché, puis il est rapatrié en Europe. Une fois qu'il est à Voiron, centre du monde, eh bien, on va le torréfier. La torréfaction est différente à chaque fois. D'abord parce que les cacaos sont différents, mais aussi leur séchage peut être différent d'un jour à l'autre. Il y a tout un tas de paramètres. Donc, on torréfie. Ensuite, on dépellicule, c'est-à-dire qu'on va casser les fèves pour enlever la peau, qui est très acide et très astringente, pour ne garder que la graine. La graine est broyée. On va rajouter du sucre pendant le broyage, non seulement pour édulcorer le chocolat, mais il y a aussi un effet mécanique. Et on va broyer jusqu'à atteindre une granulométrie, c'est-à-dire une épaisseur comprise entre 18 et 20 microns, c'est-à-dire 18 ou 20 millièmes de millimètre. Ça fait très fin, parce que c'est le seuil de détection du palais. Il faut que le chocolat soit lisse, il ne faut pas qu'il y ait l'aspect granuleux. Ça, c'est depuis le début, il y a 2 siècles qu'on travaille comme ça. Tant que la langue et le palais détectent des petits grains, on continue de broyer. Cette simple opération va prendre 3 jours. Ensuite, le fameux conchage, pour se débarrasser de l'acidité et de l'astringence, qui lui aussi va durer 3 jours. Donc on est déjà à 7 jours de transformation, 7 jours non-stop. Et ensuite, il va falloir tempérer le chocolat, c'est-à-dire l'amener à une température très précise. On a une marge d'erreur de plus ou moins 0,5 degré, si on veut que le chocolat soit brillant. Et hop, voilà, c'est fait. Alors, c'est très simple à expliquer comme ça. Pour former un chocolatier, il faut à peu près entre 5 et 10 ans.
Vous avez été formé pendant dès la plus tendre enfance.
Dès l'école maternelle. Non, c'est un métier qui s'apprend. La raison pour laquelle nous ne sommes que 6 maîtres chocolatiers en France, c'est-à-dire ayant la maîtrise depuis le cacao jusqu'au chocolat, est un petit peu lié à ça. C'est un métier, moi j'ai les premières fois où j'ai travaillé à la chocolaterie réellement pour apprendre le métier, j'avais une douzaine d'années. Oui, c'est, ça se fait comme ça. Alors, les premières fois où on m'a mis un tablier pour faire quelque chose, je devais avoir 5 ans. Mais a priori, c'était plus compliqué de nettoyer derrière moi que de me faire travailler.
Qu'est-ce qui rend le chocolat Bona particulier ?
Très bonne question. Alors ça, c'est plus à mes clients qu'il faut le demander. Dans le processus de fabrication, c'est que, en fait, nous sommes restés fidèles à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas introduit de technologie invasive par rapport au produit. C'est-à-dire qu'on respecte le produit. Pour vous donner un ordre d'idée, un fabricant industriel va nécessiter, on va dire une heure pour faire ce que nous réalisons en 7 jours. La transformation va leur prendre une heure. Nous, il faut 7 jours. En plus, les cacaos que nous utilisons sont extraordinairement rares. On a des cacaos endémiques, c'est-à-dire qui sont sur place depuis toujours. Le plus ancien type de cacao avec lequel nous travaillons au Mexique est identifié il y a 5000 ans. On a retrouvé sur des céramiques, enfin des poteries, la même trace génétique que le cacao qu'on utilise sur une plantation qui nous appartient et qui nous appartient depuis 2 siècles. C'est un petit peu ce qui fait la différence.
Vous voyagez beaucoup, vous-même, sur les plantations ?
Oui, beaucoup. C'est une obligation, tout simplement parce qu'il faut que je sache quelle est la palette aromatique que le cacao va m'offrir à chaque récolte. On a, grosso modo, 60% des arômes qui sont toujours les mêmes parce que c'est le sol qui va les apporter. Par contre, les 40% restants, ça peut être une floraison tardive, par exemple, dont les arômes vont être absents dans le cacao, parce que le cacao va pomper toutes les odeurs qui sont autour de lui. D'accord. Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut que je vérifie. Je vais noter ça sur un petit carnet. Et quand on va lancer la fermentation, on va adapter les températures et les durées pour conserver une partie de la palette aromatique qui est offerte, parce qu'on ne peut pas tout conserver. Et ensuite, quand le cacao est séché, puis il va voyager pour arriver en France, une fois qu'il est en France, il faut que je me souvienne de ce que j'ai trouvé de formidable dans le cacao. Et donc, je ressors mon petit carnet. Comme on travaille avec plus d'une soixantaine de plantations le long de la ceinture équatoriale, il faut que mon petit carnet soit bien préservé.
Et donc avec un tel travail autour des arômes, vous faites particulièrement attention aux ingrédients que vous mettez dans vos tablettes, dans vos chocolats. Qu'est-ce que vous bannissez ?
Alors je bannis tout ce qui ne fait pas partie du cacao. C'est-à-dire qu'il n'y a par exemple pas de vanille, pas de lécithine de soja ou de tournesol ou de bricolerie de ce genre. Notre chocolat noir est très simple, c'est cacao, beurre de cacao et sucre. Il n'y a rien d'autre.
Est-ce que ça se développe, le palais, pour détecter les arômes du cacao ?
Oui et non. En fait, le chocolat est un produit qui désormais fait partie de l'univers gourmet qui est réellement très fortement implanté dans la gastronomie française. Ceci étant, quelque part, c'est du chocolat. C'est un produit plaisir. La raison pour laquelle nous avons une soixantaine d'origines, c'est parce que 60 fois, ça va être le meilleur chocolat pour quelqu'un. Nous n'avons pas les mêmes palais, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. On ne peut pas avoir un chocolat qui plaise à tout le monde, c'est impossible. Dans les fameuses 6 familles historiques, on se connaît tous, on n'est pas des copains, on est des amis. Et on a parfois les mêmes cacaos qui viennent des mêmes plantations. On ne va pas faire le même chocolat. Ça implique que le savoir-faire de nos 6 entreprises est différent. Et notre vision du chocolat est différente. Alors, on ne peut pas forcer tout le monde à nous aimer. On peut pas forcer... Voilà, c'est Alain Souchon, le grand philosophe, qui disait on ne peut pas forcer les gens à nous aimer tout le temps.
Mais c'est assez fort que vous soyez tous amis dans les chocolatiers.
Par exemple, ouais. Philippe Bernachon, Bernachon, c'est une grande maison du chocolat, est le parrain de mon dernier.
D'accord.
Sébastien Bouillet, qui est un pâtissier extraordinaire, était notre témoin de mariage. La famille voisin. Il y a beaucoup de Lyonnais, parce que, assez paradoxalement, le chocolat s'est développé en France, dans la région lyonnaise, mais principalement à Voiron. Voiron est quand même un petit peu le centre du monde, il faut le rappeler. Il faut quand même une certaine forme d'intelligence et de compréhension pour être chocolatier, parce que c'est un produit qui est variable. On est sur quelque chose qui est très, très particulier. Cette espèce d'intelligence du produit a permis à nos aïeux de comprendre qu'il était plus intéressant de partager une amitié franche et massive avec des gens qui avaient la même vision plutôt que d'essayer de se taper sur le nez en disant c'est moi le meilleur. Donc, non. Bah, par exemple, ce matin, j'ai eu Philippe au téléphone parce qu'on s'appelle relativement fréquemment. Oui. Et ça se passe très bien comme ça. Oui. Nos produits ne sont pas les mêmes. Rien n'empêche des Voronais de préférer le chocolat fait par Philippe et d'aller l'acheter à Lyon. De même que rien n'empêche des Lyonnais de préférer notre chocolat et de venir l'acheter à Voiron, par exemple. Donc, et ça, on n'y peut rien. Oui. Donc, plutôt que d'essayer de changer des choses inamovibles, plutôt prendre la vie du bon côté.
On se rapproche de Pâques. Qu'est-ce que cette période représente pour votre activité et pour la chocolaterie ici?
Alors Pâques, c'est la deuxième plus grosse saison de notre activité après Noël. C'est le seul moment où dans la région, on va faire des moulages. Donc on va travailler des moules en acier ou en assimilé polycarbonate pour faire des poules, des œufs, des cloches, des lapins, des poissons. Ça, c'est très traditionnel. Et puis, c'est le moment où l'équipe des chocolatiers se lâche un peu et fait des sculptures en chocolat pour les mettre en vitrine avec des thèmes différents chaque année qui sont choisis par les chocolatiers eux-mêmes. Moi, je n'impose pas grand-chose. Ouais, c'est un moment un petit peu plus artistique que Noël, par exemple.
Oui.
Ah ben, Noël, dans la région, on n'a pas de moulage. Oui. Et il faut quand même... il est plus facile de vendre ce que les gens veulent acheter que de leur imposer une vision qu'ils ne vont pas comprendre.
J'ai une dernière petite question sur le... Donc, tout l'univers graphique autour de Bonnat, on reconnaît quand même assez bien voilà, quand on voit une tablette Bonnat. Ça vient d'où?
Oula, alors, comme je l'explique, moi, je ne suis pas vendeur d'emballage. Ah. Donc, peut-être par fainéantise intellectuelle, nous avons gardé les mêmes emballages depuis la création de la chocolaterie. A priori, ça plaît beaucoup. Notre charte graphique a été utilisée dans des films. Nos produits aussi, on va parler de Charlie et la chocolaterie, les émotifs anonymes, le petit Nicolas, donc a priori, c'est plutôt pas mal. Et pendant longtemps, je vais être un peu méchant, mais quand nous cherchions des partenaires pour recentrer un petit peu notre charte graphique, puisque en fait... on a une espèce d'empilement de presque deux siècles d'idées parfois un petit peu saugrenues. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on fait pour changer nos emballages de tablettes? Et on a gardé le seul qui a dit mais c'est parfait, ne les changez pas. Tous ceux qui voulaient qu'on passe en noir avec du jaune, du rouge, quasiment des flammes et des néons clignotants. Non, nous sommes les seuls à avoir des tablettes qui sont proposées horizontalement. Partout ailleurs, c'est du vertical parce que c'est destiné à la grande distribution. On gagne de la place, on en met beaucoup. Non, le produit a sa place. Même si une tablette coûte, par exemple, 5 euros pour 100 grammes, c'est un produit de plaisir. Il faut que ce soit visible.
Et une dernière question pour la route. Si vous aviez un conseil de dégustation pour tous les amateurs de chocolat.
Ah là là, des conseils de dégustation, il y en a plein. Il y a quelque chose qui est assez amusant. Oh là là, il y en a même plusieurs, c'est une question piège. C'est de goûter une tablette du matin jusqu'au soir, juste pour se rendre compte de l'évolution des perceptions que l'on a au palais entre le matin et le soir. On va découvrir des arômes, en perdre d'autres. Donc déjà, c'est une méthode pour redécouvrir les produits. Et puis d'essayer de faire des mélanges rigolos, mais avec ce que l'on appelle la rétro-olfaction. Ça, c'est un truc scientifique qui est très compliqué, puisque en fait, il suffit de manger du chocolat et par exemple de se frotter les mains avec une orange ou du citron ou de la menthe. Et au moment où on mange le chocolat, c'est de respirer avec le nez. Parce qu'on va avoir un mélange des arômes, mais qui vont s'additionner. On ne va pas avoir quelque chose qui va couvrir autre chose. Là, on a vraiment un mélange subtil des arômes. Et ça peut être assez rigolo. Ouais. Voilà, c'est tout. Après...
C'est déjà bien. Bon, en gros, il faut manger du chocolat toute la journée, tous les repas.
Le cacao est l'aliment le plus complet sur la planète. On trouve de tout dans le cacao, sauf du calcium. Le beurre de cacao, qui est la matière grasse, le beurre cacao est appelé la graisse parfaite, parce que c'est très bon pour le corps humain, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Il y a de la phényléthylamine qui est l'équivalent des endorphines, sauf que c'est végétal plutôt que d'être sécrété par le corps. Donc c'est ce qui explique que le chocolat est considéré comme... On parle de la vitamine de la bonne humeur. Alors c'est pas une vitamine, et par contre oui, il y a de la bonne humeur. L'idéal, c'est de se faire plaisir. C'est un produit plaisir qui est équilibré. Si vous êtes sportif, je vous conseille de manger du chocolat noir. On a suivi plusieurs équipes sur des sports différents, mais comme par exemple biathlon, triathlon et autres. Et on a participé à des régimes alimentaires pour des sportifs qui ont eu médaille d'or aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Il y a un réel effet. Il n'y a pas d'effet dopant. Par contre, vous êtes plus relaxé, vous récupérez plus vite, vous respirez mieux, vous dormez mieux. Donc, ouais, ça, c'est le chocolat. Et puis, manger du chocolat, de toute façon, c'est un produit de plaisir. C'est quand même plus agréable qu'un coup de pied aux fesses. Hein.
Ça, c'est sûr. Je pense qu'on n'a pas grand monde à convaincre, mais quand même. Eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.